Journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Y a-t-il un deux poids, deux mesures dans l'accueil des réfugiés à Calais ? Ces derniers jours, les Ukrainiens y sont hébergés gratuitement par la mairie, un traitement dont ne bénéficient pas les autres exilés présents dans la région. Les associations s'agacent, la ville se défend. 14e jour de guerre en Ukraine, un conflit couvert par plus de 2000 journalistes étrangers. Vous entendrez l'inquiétude d'un photoreporter suisse blessé ce week-end sur le terrain dans un accrochage avec les forces russes. Dans ce journal aussi, le verdict attendu au procès de Saint-Étienne-du-Rouvray. Emmanuel Macron qui veut éviter tout procès en mélange des genres entre le président et le candidat, et la ruée en mairie pour renouveler ses papiers d'identité. Les délais s'allongent considérablement.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, l'écrivain et cinéaste Emmanuel Carrère.
France Inter.
Les réfugiés ukrainiens, Alexis, se retrouvent au cœur d'un bras de fer franco-britannique à Calais.
Oui, sur les 600 Ukrainiens qui voulaient se rendre en Angleterre, la moitié ont été refoulés à la frontière faute de visa. Ils sont donc contraints d'attendre côté français. Mais dans leur malheur, ils ont au moins un toit. La mairie de Calais leur a trouvé une solution d'hébergement dans une auberge de jeunesse. Ce qui fait grincer des dents côté association d'aide aux migrants. Elles aimeraient bien le même traitement pour les autres exilés qui, eux aussi, fuient la guerre ou des persécutions dans leur pays. Rémi Brancato.
À l'auberge de jeunesse de Calais, Micha attend depuis 8 jours, parti en Roumanie chercher son épouse, son fils et sa belle-fille qui ont fui l'Ukraine. Il n'a pas pu rentrer chez lui, à Londres.
J'ai essayé de monter à bord du train dans le tunnel. À la frontière britannique, ils ont demandé des visas. Ils nous ont obligés à retourner à Calais pour obtenir des visas. Cet endroit n'est pas payant, c'est gratuit pour nous. Ça nous aide beaucoup. Oui.
Ce lieu, c'est la mairie qui l'a ouvert, et à Calais, où vivent plus de 1000 exilés dans des tentes, afghans, érythréens, soudanais, les associations s'agacent.
On parle actuellement du 21e arrêté qui nous interdit de distribuer à boire et à manger sur les lieux de vie des personnes exilées.
Juliette Delaplace du Secours catholique salue l'accueil des Ukrainiens, mais aimerait que d'autres en bénéficient aussi.
Il y a quelque chose de très hypocrite à opposer comme ça les personnes en fonction du pays d'origine. Il y a une forme de discrimination et pour moi c'est du racisme en fait.
Pour Natacha Bouchard, la maire de Calais, la différence, c'est que les Ukrainiens obtiendront leur visa.
Les personnes migrantes qui sont aujourd'hui sur le territoire de Calais savent qu'elles ne pourront pas passer en Angleterre. J'ai toujours eu cette position d'humanité et de fermeté. Ces associations n'ont pas de leçons humanitaires à me donner.
Et pour elles, les distributions de repas sont là, je cite, pour créer des incidents.
Rémi Brancato. Et ces dernières heures, Paris fait pression sur Londres pour tenter de débloquer la situation des Ukrainiens de Calais. Les Britanniques promettent l'installation dans les jours à venir d'un deuxième centre de demande de visa dans le Calaisis. Pendant ce temps, en Ukraine, l'armée russe annonce ce matin une nouvelle trêve humanitaire pour permettre des évacuations. Mais hier soir, des bombardements ont fait de nouvelles victimes civiles, cette fois à l'ouest de Kiev. 5 morts, dont 2 bébés, dans la destruction de leur maison. Une guerre dangereuse aussi pour les 2000 journalistes étrangers présents sur place. L'un d'entre eux, un Suisse, a frôlé la mort dimanche dans le sud de l'Ukraine. Aujourd'hui, il s'inquiète pour certains de ses confrères. Jérémy Lanche a pu le joindre.
Guillaume Briquet circulait en voiture dans la ville de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, quand il a été mitraillé par des troupes russes. D'après lui, les militaires ont clairement tenté de le tuer malgré les pancartes presse collées sur tous les côtés de sa voiture. À 58 ans, ce photoreporter, habitué des zones de guerre, ne s'était jamais senti autant visé en tant que journaliste.
J'aurais jamais imaginé que les Russes cherchent à m'abattre. Que des djihadistes me tirent dessus, ok, ça fait partie du jeu. Là, ils m'ont identifié comme un journaliste. Au moment de partir, ils m'ont dit « Vous avez 3 minutes pour partir ou on vous abat ».
Beaucoup de journalistes arrivés en Ukraine récemment n'ont ni matériel de protection, ni même pour certains de cartes de presse. Guillaume Briquet craint qu'ils soient considérés comme des espions par les troupes russes.
Il faut vraiment que les gens qui veulent se tailler une réputation, ils reconsidèrent la situation. On n'est pas du tout dans une manif des gilets jaunes. Ils risquent pas de recevoir un coup de matraque sur la gueule. Ils risquent d'être assassinés purement et simplement.
Et Reporters sans frontières a déjà enregistré une 15aine d'attaques impliquant des journalistes civilistes depuis le début de l'invasion russe. Elles ont fait 4 blessés. Genève, Jérémy Lanche, France Inter.
L'inquiétude ne retombe pas non plus pour la sûreté des sites nucléaires. L'Agence internationale de l'énergie atomique ne reçoit plus ce matin les données permettant de contrôler à distance les matériaux nucléaires de Tchernobyl. La transmission a été coupée avec la centrale et l'AIEA s'inquiète aussi pour le personnel de cette centrale de Tchernobyl bloqué sur place depuis 13 jours sous surveillance russe.
7h34, la Russie, Alexis, qui est au bord du défaut de paiement.
Ouais, c'est ce que dit l'agence de notation Fitch. En raison des lourdes sanctions occidentales, les multinationales prennent leur distance les unes après les autres. En janvier 90, l'ouverture du premier McDonald's à Moscou était l'un des symboles de la fin de l'URSS. 32 ans plus tard, l'enseigne ferme temporairement tous ses restaurants en Russie. Voilà donc un groupe américain de plus sur la longue liste des entreprises impactées par la guerre, Sébastien Paour.
Apple, Nike, Levi's, Harley-Davidson, Netflix ou Microsoft, les entreprises américaines qui ont annoncé la suspension de leurs activités ou leur retrait pur et simple de Russie sont nombreuses et McDonald's ne fait donc pas exception. Il faut dire que les appels au boycott commençaient à apparaître sur les réseaux sociaux. Le géant américain gère 850 restaurants en Russie. Il précise qu'il va continuer à payer ses 62 000 salariés pendant la fermeture. Fermeture provisoire aussi pour les 130 cafés Starbucks du pays, autre enseigne américaine bien connue. Coca-Cola suspend également ses opérations. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, Boeing a suspendu ses principales activités à Moscou, ainsi que la maintenance et le soutien technique aux compagnies aériennes russes. General Motors ne vend qu'environ 3 000 voitures par an en Russie, mais suspend ses exportations, tout comme Ford. Expédition entre parenthèses dans le pays pour FedEx et UPS. Les sorties de films Disney sont aussi à l'arrêt en Russie, jusqu'à nouvel ordre. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Ces grands groupes quittent la Russie dans la foulée de l'annonce d'un embargo américain sur le gaz et le pétrole russe. Pour l'instant, les Européens ne suivent pas. Ils devraient s'accorder sur une position commune demain ou vendredi lors du sommet de Versailles. Emmanuel Macron s'apprête donc à accueillir en France ses homologues des 27, alors qu'il vient tout juste de lancer sa campagne présidentielle. Président, candidat, il n'échappe pas aux accusations de mélange des genres. Le chef de l'État, soupçonné par certains de ses concurrents de profiter de sa position, voire des moyens de l'Élysée pour faire campagne. Alors son entourage tente de désamorcer toutes les polémiques à venir, Simon Le Baron.
Nous respecterons les règles à la lettre. L'équipe d'Emmanuel Macron avait pris les devants en invitant les journalistes au QG de campagne. Voici donc un cas pratique. Le candidat se déplace pour un meeting, disons dans le sud de la France. Il le fait, raison de sécurité, avec les moyens du président. Mais ces moyens sont refacturés sur le compte de campagne. Par exemple, un voyage en avion Falcon, c'est 5000 euros de l'heure. Il est suivi par des conseillers, du personnel. Eh bien, il n'y a que des membres de son équipe de campagne, aucun salarié de l'Élysée. À une exception près tout de même, la photographe officielle qui, ne pouvant se dédoubler, a signé un contrat à 50-50. Et puis, il utilise les réseaux sociaux. Là aussi, c'est clair, assure les cadres de la campagne. Il y a les profils d'Emmanuel Macron et ceux de la présidence. Séparation stricte donc, en tout cas sur le plan financier, car la frontière ne sera jamais totalement étanche. Certains ministres, Gabriel Attal, Julien Denormandie, Sébastien Lecornu, jouent un rôle clé. Un conseiller le reconnaît. On fait campagne à fond, tout en restant au gouvernement.
Ivan Colonna n'est plus ce matin un détenu particulièrement signalé. Le Premier ministre a levé ce statut pour le militant indépendantiste corse, toujours dans le coma à l'hôpital. C'est ce statut de DPS qui empêchait notamment son transfert vers une prison corse. Mais les avocats d'Ivan Colonna fustigent ce matin une décision bien trop tardive. Le verdict est attendu aujourd'hui au procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Les assassins du père Hamel ont été tués juste après les faits en juillet 2016. Ce sont donc trois de leurs proches qui sont jugés depuis 3 semaines à Paris pour association de malfaiteurs terroristes. L'accusation a requis contre 7 à 14 ans de prison. Tout l'enjeu, Ariane Grissel, c'est de déterminer le niveau de connaissance que ces hommes avaient du projet des assaillants.
Selon la Cour de cassation, il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance concrète et précise du projet d'attentat pour être reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroristes. Une connaissance concrète et précise, insiste à l'audience l'une des avocates. Cela veut dire qu'il faut avoir connaissance du projet. Or, les accusés ont admis avoir été en lien avec les terroristes, mais sans rien savoir de leur futur passage à l'acte. Béranger Tourné est l'avocat de l'un d'eux, Jean-Philippe Steven Jean-Louis.
On reproche à ces lampistes de s'être agrégés à une association de malfaiteurs terroristes criminels. Et ça n'est pas le cas. Et ça n'est notamment pas le cas de mon client qui ne savait rien de ce projet d'attentat qui s'est fomenté le 22 et qui s'est réalisé le 26.
Dans sa plaidoirie, Sa consœur, Léa Dordi, s'interroge. Comment je me défends face à une accusation dont je cerne si mal les limites? L'avocate de Farid Kelly, le cousin de l'un des assaillants, s'en explique à la sortie de l'audience.
On a eu l'impression en fait de s'engouffrer dans un gouffre béant et qu'on ne pouvait plus en réalité déjà ni sortir nos clients de détention provisoire, ce qu'on pouvait entendre. On ne pouvait plus évidemment placer des gens sous bracelet électronique dans le dossier de Saint-Étienne-du-Rouvray en particulier. Mais il y avait aussi un glissement vers le de moins en moins d'exigences en termes de preuves et de plus en plus de sévérité en termes de peine.
Rien ne se démontre, tout se présume. C'est absolument vertigineux, plaide l'avocate à la barre, avant de mettre en garde. Du vertige à l'abîme, il y a un pas qu'il ne faut jamais franchir.
Ariane Grissel. Il est 7h39, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre si on veut renouveler ses papiers d'identité pour voyager cet été.
Ah oui, il ne faut vraiment pas tarder compte tenu des délais incroyablement longs en ce moment dans certaines régions. En Alsace par exemple, il faut compter au moins 4 mois pour une carte d'identité ou un passeport. Après la parenthèse Covid, il y a clairement un effet rattrapage. Reportage de Luc Dreosto à Truchtersheim, c'est près de Strasbourg.
Les journées de Sandra Bornert sont très chargées en ce moment. Cette agente d'accueil gère les dossiers de renouvellement des pièces d'identité. Son prochain créneau de libre, c'est à la mi-juin.
C'est la première fois que ça s'est aussi intense. Alors, on a déjà eu 6 semaines de délai à peu près, aux vacances d'été, où les gens, en dernière minute, se rendent compte qu'effectivement, ils ont réservé un voyage et que le passeport ou la carte d'identité n'est plus valable. Mais là, 3 mois, c'est la première fois.
Pendant 2 ans, l'activité a tourné au ralenti à cause de la pandémie de Covid. Mais aujourd'hui, le maire de Truchtersheim, Justin Vogel, voit débouler des gens de partout.
On a des gens qui sont venus de Falsbourg, de Sarrebourg, de la Petite Pierre, de Strasbourg aussi. Je sais qu'il y a des gens, même ici du Cru, qui sont allés dans les Vosges, hein, parce que les délais visiblement sont plus courts. Mais ici en Alsace, c'est terrible.
Comme la plupart des mairies, Truchtersheim a mis en place des créneaux d'urgence pour ceux qui ont perdu leurs papiers ou ceux qui en ont besoin en un temps record. Jean a failli ne pas partir en Amérique du Sud.
J'ai prévu un vol qui est dans pas longtemps et donc on m'a dit qu'il y avait des créneaux d'urgence, mais vraiment c'était une urgence très urgente et c'est comme ça que j'ai eu mon créneau, heureusement. C'était ça où j'ai annuler mon vol et je devais demander le remboursement du vol.
Comme les délais de traitement à la préfecture sont aussi rallongés, il faut compter actuellement entre 4 et 5 mois en Alsace pour obtenir une nouvelle pièce d'identité.
Reportage France Bleu Alsace et après les papiers, il faudra penser aux billets de train. Sachez que la SNCF vient d'ouvrir ce matin les réservations pour juillet et août.
Et sur les papiers, un mot Léa ?
Oui, je vais vous dire, je veux juste dire aux auditeurs parce que j'ai galéré pendant 2 mois pour essayer de trouver un rendez-vous à Paris pour refaire mon passeport et ceux de ma famille. Eh bien j'ai un petit conseil à leur donner parce que jour et nuit il n'y a aucun rendez-vous. Il faut se connecter dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà. À 5h du matin, le lundi matin, vous trouvez un... Non mais c'était atroce.
Le conseil et la colère de Léa sur le sujet. Merci Alexis Morel, l'édito politique.